Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir, bienvenue à l'émission Tant qu'il y a des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons Madame Iyam Zaitoun pour son second livre, Les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter, aux éditions Buchet-Châtel, dans la nouvelle collection La Résonance. Madame, bonsoir.
Bonsoir.
Madame, vous êtes autrice, actrice, comédienne, scénariste. Après plusieurs années de danse, vous avez découvert le théâtre au lycée. Vous avez obtenu des études. Vous avez poursuivi des études littéraires et vous avez obtenu une maîtrise et un DA en art du spectacle.
Tout à fait.
Donc vous avez commencé très jeune donc le théâtre.
Oui, j'ai commencé au lycée comme vous disiez.
Oui.
Et puis après, ça a été ce désir qui a porté la suite de mes études, de ce que j'ai fait. Je suis rentrée au Conservatoire National et ensuite, j'ai commencé à travailler comme comédienne. Mais il y a toujours eu le désir d'écrire, ça a toujours été là. Et donc, ça s'accomplit un peu plus sur le tard, plutôt avec des adaptations de pièces de théâtre, mais aussi un feuilleton diffusé sur France Culture qui s'appelle « J'apprends l'arabe ».
Oui, en effet.
Voilà. Et puis un premier livre, « Vigile », en 2019, aux éditions Le Tripode, avant ce livre, donc « Les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter ».
Qui est une longue histoire qu'on va poursuivre, regarder tranquillement. Mais le théâtre, vous jouez souvent des répertoires contemporains. Ce sont des pièces souvent contemporaines que vous jouez.
Oui, disons que ça a été. C'est pas forcément ce que j'ai travaillé pendant mes études au conservatoire, mais c'est plus là-dessus qu'on m'a distribué. J'en parle aussi un petit peu dans le livre. Il y a aussi, cette invisibilisation des personnes racisées sur les scènes de théâtre françaises, hein, même si ça bouge, ça commence à changer, mais. À l'époque où moi, je sors du conservatoire, on me dit « t'es un petit peu trop typé pour jouer dans des classiques ». Donc effectivement, le répertoire que je travaille, c'est le répertoire contemporain. Et même, je dirais, on ne dit plus ce mot-là, mais celui de la francophonie. Alors moi, ça m'a fait découvrir des écritures que j'ai adorées, comme par exemple celle de José Plia, qui malheureusement est décédée il n'y a pas très longtemps. Donc ça a été aussi, ça m'a aussi beaucoup nourri toutes ces écritures-là.
Et au cinéma, vous avez aussi tourné avec des réalisateurs de renom, des grands réalisateurs.
Oui, avec Tony Marshall, j'ai travaillé sur le Bureau des Légendes avec Éric Rochant, des super expériences.
À la télévision, alors, le Bureau des Légendes, c'est ça?
Oui.
Le Village Français.
Oui.
Et puis, Parents Mode d'Emploi, qui est une série très drôle en plus.
Absolument, c'était un grand plaisir de travailler sur toutes ces séries, ces projets, voilà.
Et même des séries internationales aussi.
Oui, j'ai travaillé sur une série de Gideon Raff qui s'appelle The Spy, voilà.
Et le feuilleton radiophonique « J'apprends l'arabe », est-ce que ça s'est encore diffusé sur France Culture ?
Alors malheureusement, il n'est plus en ligne parce que c'est diffusé pendant 2 ans à peu près, et là il n'est plus en ligne, mais on n'est pas à l'abri que ça soit rediffusé bientôt, en tout cas
mais ça va
j'ai
l'être,
beaucoup
ça va
aimé
l'être.
Faire ça.
Donc... Voyons comment l'Afghanistan est devenu le territoire le plus répressif au monde pour les femmes.
Oui, alors on va se partager quelques petites dates, essayer de se mettre...
La chronologie un petit peu.
Exactement, donc si on remonte en 1919, on a l'émir Amanullah Khan qui, lui, va au contraire lancer un programme de réforme pour améliorer la condition des femmes. Il interdit le mariage forcé, la polygamie. Il commence à soutenir l'éducation des filles. En 1929, son successeur annule toutes ces réformes, malheureusement, et met en place un régime religieux autocratique. Les Afghanes sont autorisés à retirer finalement leur tchador en 1959, avec une nouvelle ouverture pour les femmes qui se remettent à étudier, enfin surtout les plus privilégiées, celles qui sont à Kaboul. Et puis, il va y avoir en 1979 cette guerre qui oppose l'État laïque afghan à l'URSS et finalement l'arrivée du premier régime des talibans qui va ressembler exactement à celui qu'on voit aujourd'hui, qui va durer très longtemps et finalement... Donc les femmes retrouvent un peu de liberté en 2001 où elles, elles vont repouvoir un petit peu étudier. Et on a toutes ces femmes qui s'investissent beaucoup, beaucoup dans la société. Mais en 2021, retour des talibans, le 15 août 2021. Et là, bah, on a toutes les lois qu'on va découvrir, dont vous allez nous parler.
Absolument. Donc en 2022, les écoles secondaires pour les filles, les écoles sont fermées. Les femmes non accompagnées d'un parent masculin ne peuvent pas prendre l'avion, donc elles ne peuvent pas quitter le pays. Le 7 mai 2022, le chef suprême des talibans impose aux femmes le port de la burqa, le voile intégral en public. Fin 2023, le Pakistan expulse les réfugiés afghans. Les anciennes magistrates, journalistes, artistes et défenseurs des droits des humains sont alors en situation vulnérable, bien entendu.
Absolument.
En mars 2024, le leader des talibans rétablit la peine de la lapidation en public pour les femmes. Ça, c'est terrible. C'est archaïque complètement, cette histoire de lapidation. 35 articles de loi visant à prévenir le vice et promouvoir la vertu sont publiés le 31 juillet 2024. Les interdits pour les femmes sont nombreux. L'adultère est interdit, l'homosexualité, les jeux d'argent, la création, le visionnage d'images vivantes sur un ordinateur ou un téléphone portable, l'amitié avec un non-musulman. Les femmes ne peuvent pas se déplacer sans un mahram, c'est un gardien avec lequel elles ne peuvent pas se marier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va les accompagner dans leur déplacement, elles ne peuvent pas sortir seules. Pourquoi avez-vous décidé, madame, d'écrire un livre sur la situation de ces femmes afghanes ?
Je raconte dans le premier chapitre du livre que c'est d'abord une voix, hein, la voix d'une amie qui est très engagée, très féministe, et qui, un matin de fin août 2024, me laisse un vocal en me disant « Je ne sais pas si tu as vu, mais les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter ». Et je pense que c'est à la fois l'amitié, la voix bouleversée de l'ami, et ce mot, cette sidération devant le fait que des femmes n'ont plus le droit de chanter. Mais en fait, on découvre très vite, c'est pas seulement qu'elles n'ont pas le droit de chanter, c'est simplement la voix est considérée comme un vice. Donc moi, je suis comédienne, je suis autrice, je suis une femme, évidemment que ça vient tout de suite me chercher. Et cette phrase-là, les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter, devient une sorte d'obsession, se décline d'abord en un poème, et puis très vite, l'idée du livre, qui vient aussi percuter une rencontre que j'ai faite avec Maëlys de la Jugie, éditrice chez Buchet-Chastel, et qui ouvre une nouvelle collection, qui sont des récits dont le fil rouge est la musique. Donc l'occasion est là. Je peux peut-être faire quelque chose, utiliser ma voix, justement, pour la mettre au service, peut-être, de celles qui sont empêchées.
Dans le livre, vous expliquez, j'ai bien aimé, vous aviez tendance, et je crois que c'est beaucoup de femmes, beaucoup d'humains, c'est ça, à ne pas prendre conscience vraiment des problèmes lointains. C'est-à-dire qu'on est tellement envahi par des drames que quelque part, on est moins attentif, en fait, sur les situations. Mais ça vous amène à une réflexion de vous dire, c'est vrai que nous sommes des femmes épargnées dans la confort social et familial. Alors, comment se mettre à la place des femmes sans droit et sans voix? Il y a une neuroscientifique qui s'appelle Sama Karaki, qui estime que nous ne sommes pas naturellement portés à s'émouvoir les uns sur les autres. Et donc, moi, ça m'a interpellé ce que vous dites, parce que vous dites, oui, effectivement, je n'étais pas au départ intéressée, ou j'ai été par cette amie interpellée, et c'est là, effectivement, où j'ai pris conscience.
Oui, je pense qu'on a tendance, en tout cas, alors j'ai parlé pour moi, à se protéger aussi. On a pléthore d'informations, pléthore de drames, pléthore de terrains en guerre. Il n'y a qu'à penser à Gaza aujourd'hui, à plein de crimes contre l'humanité qui sont tout le temps actuellement en train de se produire. Comment continuer ? Est-ce que vraiment il faut tout entendre, tout écouter, ça a été des questions que je me suis posées, parce que quelle est notre puissance, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un équilibre difficile à trouver entre être un être sensible et un être concerné, un être solidaire, et en même temps, avec ce degré d'impuissance qui est énorme et dont on ne sait que faire. Donc le hasard fait que, sur cette question-là, je suis... Il y a une connexion qui se fait, que aussi très vite je me découvre aussi quelque chose de, comment dire, très vite je découvre à quel point la poésie, la chanson est un acte existentiel depuis toujours pour les femmes dans cette culture. Donc en fait, l'espèce d'intuition que j'ai, où je vais vouloir m'intéresser déjà, parce qu'en fait je pense que la première chose avant même de parler d'être c'est faire céder l'ignorance. En fait, oui, avant de faire céder l'indifférence, c'est déjà faire céder l'ignorance.
Oui.
Après, est-ce qu'on est aidé ? Est-ce que il y a évidemment des cultures, ce que dit Sama Karaki, c'est qu'elle dit qu'il y a une empathie différente selon les cultures, et qu'il y a évidemment des cultures dont on parle plus et d'autres dont on parle moins. Donc une empathie différente aussi. Et comment on en parle ? Est-ce qu'on voit des images ? Est-ce qu'on a des récits de vie de personnes, ou est-ce qu'on ne parle que de chiffres? Voilà, c'est aussi ça
comment faire,
qui compte.
En fait.
Oui.
Mais c'est vrai qu'avant l'action, il y a l'empathie. Et l'empathie, il y a plusieurs formes d'empathie. Il y a l'empathie, effectivement, compassionnelle, on dit, qu'on ressent la douleur de l'autre, et on a envie d'aider et de la soulager. Et vous parlez d'une chose, vous parlez de votre culpabilité, votre questionnement. Comment se déterminer, ce que vous voulez dire, d'ailleurs, face à toutes ces phallocraties? Mais revendiquer quelque chose, c'est aussi prendre parti, remettre en question ses convictions sans avoir peur de conflit. Et c'est vrai que quand on revendique, on risque de heurter des gens, on risque de heurter des amis même, quelquefois. Donc c'est ça aussi qui est compliqué quand on veut aider et être dans l'action, quelque part.
Oui, je questionne. Je me suis dit que j'allais pas seulement m'intéresser, découvrir, mais que j'allais aussi me questionner sur ma propre voie. C'est-à-dire qu'écrire, c'est prendre un risque. Il y a évidemment plein de façons d'écrire ce livre, plein de... voilà, il y a une infinité de choix qui s'offrent à nous quand on écrit. Qu'est-ce qu'on affirme? Qu'est-ce qu'on décide de prioriser? Oui, et puis toutes ces... Est-ce que je suis légitime pour parler d'un pays que je ne connais pas, où je ne suis jamais allée? Moi, je suis partie de l'idée qu'en tant que femme, on pouvait s'associer, on pouvait sororiser. Et donc, je n'écris pas du tout en tant que spécialiste, je n'écris pas du tout en tant que ni historienne, ni journaliste, ni connaisseuse. J'écris en tant que femme, en tant qu'artiste. Et donc, dans ce petit chemin, je propose de le partager aux lectrices, aux lecteurs, de partager. Et je pense qu'il y a évidemment plein de gens qui connaissent toute cette situation bien mieux que moi. Moi, l'idée, c'était de mettre ma sensibilité, mes questions, mes doutes en partage. Et voilà, et ça aboutit aussi à des rencontres, à des découvertes, est-ce que finalement dans notre société, la voix des femmes est complètement autorisée? Évidemment, on ne peut pas comparer, mais je trouvais ça un peu nécessaire, même obligé, de m'engager aussi, de me livrer un peu sur des interrogations sur... Voilà. Est-ce que ma voix est totalement libérée ici? Pas forcément, quoi.
Mais c'est complètement juste. Moi, ça m'a complètement interpellé aussi, parce que vous, ce terme de femme racisée d'origine arabe, vous êtes d'origine égyptienne, et vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour parler des femmes afghanes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé, parce que je me suis dit, les races n'existent pas, donc, ou alors nous sommes tous racisés, quelque part. On est tous racisés. Je suis racisé, vous êtes racisé, et vous avez parfaitement le droit de parler et d'exprimer vos sentiments. Et dans ce livre, je trouve même la façon dont c'est édité, c'est très juste en fait. C'est pas qu'un récit brut avec des chiffres, etc. C'est vraiment la rencontre de femmes, on va en parler, mais vous avez vraiment rencontré ces femmes et vous avez vraiment écouté ces femmes et vous avez fait un acte de sororité complètement extraordinaire. Les images qu'on reçoit de l'Afghanistan sont souvent des images d'hommes portant des mitraillettes, kalachnikov, et de femmes fantômes derrière des grillages de tissus. La question, c'est pourquoi ce sont les femmes qui doivent se cacher? Pourquoi ce sont les femmes qui doivent cacher leur chevelure, leur visage, et disparaître sous ce linceul? Et pourquoi les hommes, eux, peuvent rester habillés comme ils veulent? Et je pensais libre la barbe et les cheveux au vent. Je veux dire, pourquoi eux, ils peuvent rester comme ils veulent, s'habiller comme ils veulent? Donc, c'est incroyable, parce que c'est la religion encore qui nous baïonne, hein, là encore. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que, sous prétexte de décider de la vertu de ces femmes, ils les enferment. C'est fou.
Oui, la religion qui est instrumentalisée, effectivement, par un groupe qu'on considérait avant comme étant des terroristes. Donc c'est ce que dit notamment chez Lanoury, qui elle... Moi, j'ai essayé aussi de respecter justement les gens qui avaient une croyance dans leur... Et ce qui est beaucoup dénoncé quand même, parce que l'Afghanistan est un pays musulman et il y a énormément d'Afghans qui, au moment de l'arrivée des talibans, qui décrètent en fait, qui font tous ces décrets, disent « ben non, c'est une insulte à notre foi, à notre religion, parce que nous, on se sent musulmans, mais on ne voit pas du tout les choses comme ça ». Donc en fait, je pense que très souvent, dans toutes les oppressions, c'est une instrumentalisation. Et c'est quand même des questions de pouvoir, hein, toujours. Le pouvoir, et malheureusement, toujours le pouvoir patriarcal, le pouvoir des hommes.
C'est-à-dire que sous prétexte de religion, effectivement, les talibans ont mis en place un système du genre, une patriarcat du genre, les femmes sont victimes de ça. C'est fou aussi parce que c'est aussi la vertu. Alors c'est ça qui est incompréhensible pour nous d'ici. C'est de considérer qu'ils sont maîtres de notre vertu. Et comment vous décidez, à cause de la religion, qu'une femme doit rester vertueuse, quoi. C'est ça qui est fou aussi.
Oui, quelle est la vertu? C'est-à-dire quand on commence à décréter que même une voix est
oui,
un vice.
Voix, oui.
Enfin, ça veut dire
un visage.
Ça veut dire en fait, c'est l'existence même des femmes qui est un vice. Donc là, enfin, aujourd'hui, oui, on parle de crimes contre l'humanité, on parle d'apartheid de genre parce que c'est une telle oppression que la simple existence. Et puis d'ailleurs, c'est Amida Aman qui dit ça et qui dit la voix, c'est la vie. La voix, c'est la vie.
Bien
donc
sûr.
À partir du moment où on interdit la voix des femmes. Qu'est-ce qui reste, en fait? Bientôt, elles ne pourront plus respirer, en gros.
Oui, parce que certaines religions ont fait de la femme un être inférieur, mais sexualisé. C'est-à-dire que le corps et les cheveux sont l'objet de séduction. Mais les femmes ne peuvent pas se couper la tête, en fait.
De leur point de vue, est sexuel,
tout
en
est
fait.
Sexuel.
Tout est sexuel.
Absolument. Les femmes sont quand même résistantes. Elles résistent quand même. Dans votre livre, vous nous montrez de diverses façons de résister. Vous parlez de landais. C'est un mot afghan qui signifie petit serpent venimeux. Et c'est quoi le landais?
Alors les landais, c'est une. Ben, ça aussi, ça a été dans les découvertes qui m'ont dit je suis vraiment sur un chemin passionnant. C'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à la poésie et aux poétesses afghanes, j'ai découvert cette pratique poétique qui est le landais, qui est en fait une poésie collective et anonyme. Les landais, ce sont des petits poèmes très courts, en deux vers, et qui sont très souvent transgressifs, mais anonymes, et qu'on se passait avant sous le manteau, maintenant par WhatsApp, par tous les moyens qu'on a aujourd'hui, et qui fait qu'en fait, c'est un peu des haïkus afghan, si on veut traduire, c'est l'occasion de dénoncer plein de choses, avec humour, mais aussi parfois avec le sens du tragique, etc. Et donc, quand j'ai découvert cette pratique, j'ai aussi aimé cette signification, qui est la signification des petits serpents qui mordent, comme
oui,
si
ça, oui.
La poésie, en fait, pouvait être une morsure avec un poison, et j'ai trouvé ça génial, quand on pense à la signification du serpent toute cette signification biblique et du vice, etc.
Exactement.
Et qu'elle s'approprie finalement ce truc du serpent. Je ne sais pas forcément lié, mais en tout cas, moi, évidemment, j'ai fait le
rapprochement
et l'écho.
Oui,
c'est génial parce que oui, c'est une poésie collective. C'est-à-dire que c'est la voix des femmes qu'on entend comme ça.
Ouais.
Et c'est extraordinaire. Et donc, je parle un peu de comment je découvre ça. À travers un documentaire aussi qui est très beau, qui s'appelle Snake, où on entend les voix de ces femmes dire ces poèmes, et c'est magnifique.
Hein. Super. En fait, elles ont fait des clubs politiques aussi, clandestins. Elles organisent des clubs où les femmes doivent effectivement pouvoir... Parce que sous le voile, on peut faire plein de choses aussi.
Ah hein. Oui, oui. Donc, effectivement, pendant le premier régime taliban, par exemple, une poétesse qui est très connue, qui s'appelle Nadia Anjouman, dont j'ai lu pas mal de textes sur son histoire, sa biographie, et elle participe justement pendant le premier régime taliban à un club de couturières entre guillemets, sous prétexte de coudre et se retrouver pour coudre, en fait, elle lit Dostoïevski, de la poésie, elles font atelier d'écriture, elles sont même avec un prof de fac qui les accompagne, et elles arrivent sous la burqa, et il y a même les enfants qui jouent devant la porte, et qui si jamais les talibans arrivent, vite, vite, ils rentrent, ils préviennent, ils disent attention, et tout le monde remet la burqa, et on fait semblant de coudre. Donc, il y a quand même une résilience, une résistance incroyable. Et d'ailleurs, ben, moi, très vite, ben, mon livre s'appelle « Les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter », mais si on tourne le rabat, il y a écrit « Et pourtant, elles chantent ». Oui. Et la couverture est aussi ce cri, ce chant visuellement. Enfin, on a eu envie de tout de suite... évidemment, le titre, il est à la forme négative, mais nous, ce qu'on veut, ce dont j'ai toujours eu à cœur de parler, c'était... ce qui est acte, ce qui est résilience, ce qui est résistance et qui force mon admiration, en fait.
Bien sûr. Notre admiration aussi. Un peu de musique que vous avez choisi.
Oui.
Alors, Solita, Bad Girl.
Alizadeh, ouais.
Eh bien, c'est parti.
بنام خدا به نام خالق کریم قلم و کاغذ و مای کام باده بزن بره بازم ما مادم باید گفتنی خیلی کوتاه بره 3 دقیقه بشی گوش کن نرا تو جایی دختر سکوت نکن تو هم بگو چند تا کلمه پشت تو قوی سادون کسی نزنه صدمه این با پیش میره نگو هدف از ما دورتره رفیق دیگاه ما از زیروس خیلی قوی تره نخستگی من این نداره میریم تو روح از بهترین شرای تو بو کرده گروه دختر چیزی مانه نمیشه از نسل امروزی ما مقاوم پیش میره به سمت پیروزی تر ما دوام نمیاره سخت و مانه اصلا ما دلیر هم پسر شجا مثلا قوی میریم جلو جهان میدیم تکون قدم محکم جاده ها میدن راه نشو راهی نزی به فردای درخشان که همه ما رو به نماد قهرمان میدن نشو راهی متفاوت نه سمت آشپز خونه راهی به سمت آزادی از چارچوبای خانه یک دختر خوب کسی است که هیچ گناه نکنه حواس متسی و درس آینده خوبه ده دست دگرا و اگه اعتراضی بود سکوت کنه هیچ نگه حقیقت اینه که ما هستیم دخترای بعد چون که این راه نمیریم از این مسی خوب بلند میرسیم به مقصد گرچه پور ریز که میشکنیم رد میشیم از زحچی تابلوی ایسته ما تو موا گرمه یا سرعت ما بیش از حد خلاصه افراد آماده رو به جلو بریم در حال فورانیم از ما نباش شکی اگه ما جهان تغییر ندیم پس کی ما زنان بس برنگی زنان زیبا قوی و شگفتنگیز هر راه بریم انرژی مثبتم میاد اگه اعتماد داره به ما تشکر زیاد در آخر بگذم و معرفی کن و انگفته جهان ما شکست نا پذیریم نقطه هی تسلیم نشو دختم برو جلو و به جنگ بیتر هی تو باشو میمایی به سمت رویه ها و روشنایی هی تسلیم نشو دختم برو جلو و به جنگ بیتر هی تو باشو نمایی به سمت رویه ها و روشنایی تشکر
Eh bien, c'était ça, c'était Sonita, Bad Girl, donc ça explique ceci, explique cela. Hein. Vous écoutez toujours tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM. Je reçois madame pourquoi j'ai du mal à dire votre prénom à chaque fois ?
Ayam
Zaitoun, pour ce songe livre, parce que le premier est sorti aussi, je vous dirais. Les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter aux éditions Buchet-Châtel, dans la nouvelle collection La Résonance. Et on parlait tout à l'heure de cette poétesse, vous m'avez parlé un petit peu de cette poétesse. Nadia
Anjouman.
Alors, fantastique parce qu'effectivement, elle a créé donc des clubs poétiques clandestins, mais alors elle est décédée sous les coups alors qu'elle allait sortir un recueil. Elle est en 2005, elle est décédée sous les coups de son mari. Elle avait 25 ans.
Très jeune, mais c'est très vraiment, jeune. C'est l'histoire. Enfin, d'abord, c'est une grande poétesse parce qu'elle est quelque part, justement, par son destin tragique, elle est un peu... elle représente aussi le destin d'énormément de femmes,
oui.
Mais aussi parce que sa poésie, et c'est, voilà, tout n'est pas traduit en France. Hein. Donc moi, je le découvre grâce à une anthologie de Leïli Anvar qui s'appelle « Le cri des femmes afghanes ». C'est vraiment une poésie qui est très simple, très... comment dire, immédiate, avec, enfin, elle arrive à dire en fait cette sensation d'enfermement, alors qu'elle est une personne qui a étudié, elle est allée à la fac, elle est même publiée, une des premières qui est publiée après le premier régime taliban, mais il y a cette sensation d'étouffement, cette sensation d'enfermement, et en fait, on s'identifie très très vite en fait à ce qu'elle dit, avec ce bonheur d'écrire, et que la littérature est vraiment son... son
besoin,
espace,
quoi.
En fait, son espace de respiration, d'existence, où elle peut dire vers le fond de son cœur. Et en fait, oui, elle meurt dans des conditions tragiques. Une scène de ménage, en fait, hein, une nuit, sous les coups de son mari, et qui mettra plusieurs heures avant d'appeler les secours de l'amener à l'hôpital.
Elle ne voulait pas l'épouser, au départ.
Oui, c'est un mariage quasi forcé. Et oui, ça a bouleversé énormément et l'Afghanistan, mais aussi toute l'opinion publique. Voilà, donc c'est un peu elle dont on parle très vite dès qu'il y a à nouveau ces interdictions, là, en août 2024. Moi, je vois apparaître son nom, Nadia Anjouman, je lis ses poèmes, et c'est comme ça que je découvre sa voix.
Les femmes, afghanes combattantes et soldates, comme j'ai vu sur votre livre, des chanteuses, vous parlez de d'autres chanteuses aussi. Arima, c'est ça ?
Alors, Ariana Saïd. Ariana Saïd, voilà, qui est, elle est exilée, mais beaucoup, beaucoup de chanteuses sont exilées, hein, puisqu'elles ne peuvent pas pratiquer leur art. Donc, Ariana Saïd qui. Et un peu très connue aussi parce que elle a participé comme présentatrice à ces émissions de télécrochet qui sont un peu l'équivalent de The Voice, et que chacune de ses apparitions, c'est l'occasion de, en fait, vraiment, elle est très attentive à ses tenues, elle milite pour le droit des femmes à s'habiller telles qu'elles veulent, donc elle va porter des tenues qui peuvent être aussi bien traditionnelles, mais dans le traditionnel, qui est vraiment la belle culture afghane, très que des choses très occidentales, mais elle se sent libre et elle encourage toutes les femmes à faire ça. Et je raconte dans le livre qu'elle provoque très souvent le scandale et qu'elle a notamment une fatwa simplement d'avoir fait ça, d'avoir chanté, de prendre la parole. Et puis elle a toujours des chansons très sorores où elle parle de la condition des femmes. Et elle est extraordinaire. Enfin, c'est sa beauté, son engagement, sa lumière, en fait. Elle milite par le chant, par l'art, par simplement
par
sa
l'art,
présence.
Par
elle
sa
fait
présence.
Avancer plein de choses, en fait.
Mais quand elle était à Kaboul, apparemment, elle était avec des gardes. Elle avait des gardes approchés et elle avait un gilet pare-balles pour se déplacer. Elle
était obligée de se protéger. C'est des femmes qui sont en danger. Enfin, quand on se dit aujourd'hui, moi, je suis actrice, autrice, évidemment, je ne risque pas ma vie en faisant mon métier.
C'est
et là,
clair.
Tout à coup, ça repositionne un peu qu'est-ce que c'est que d'être artiste dans certaines cultures, dans certains pays. Oui, c'est risquer sa vie. Être artiste, c'est risquer sa vie.
Ouais. C'est vrai que pas pouvoir chanter, c'est ça aussi. C'est pouvoir, c'est pas que le fait de pas chanter, c'est toute la vie qui est chamboulée. Il y a un autre aussi, l'orchestre de Zora. C'est un groupe pop de formation uniquement féminine, c'est ça ?
Alors à la base, c'était le projet, mais en fait, ça n'est plus un groupe pop. C'est d'abord une école, et donc une école qui est. L'idée, c'est de transmettre la tradition de la musique afghane qui a été presque oubliée, en tout cas étouffée pendant le premier régime taliban. Et donc, il y a l'idée de recréer une école où on va pouvoir transmettre ces traditions. Et puis, mais comme dans cette école, on apprend la musique en général, il y a un groupe de jeunes filles qui ont le désir de créer un groupe pop. Et puis, comme il y a tellement de jeunes filles qui veulent faire ça, finalement, on décide de faire un orchestre. Et donc, cet orchestre s'appelle Zora, en hommage à la déesse perse de la musique. Et donc, c'est un orchestre. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il continue. Je pense qu'aujourd'hui, il continue de donner des concerts par le monde. Mais l'idée, c'était ça. C'est représenter, en fait, les traditions afghanes, la musique afghane, par des jeunes femmes qui vont jouer cette musique dans le monde entier. Et c'est quand on lit les articles, quand on découvre, il y a un très beau film sur Arte, qui parle de leur histoire, s'appelle « Des musiciennes contre les talibans », qui est incroyable et qui est extrêmement émouvant parce qu'on voit ces jeunes filles qui aujourd'hui sont exilées, hein, parce qu'elles ne peuvent évidemment pas continuer de là où elles sont, qui disent leur but, quoi. Leur but, c'est transmettre, continuer à transmettre ces traditions, mais c'est aussi pouvoir revenir un jour dans leur pays et enseigner à nouveau pour que ça ne se perde pas. Et c'est vrai que ça m'a bouleversée, ce désir, cette responsabilité de toute jeune femme.
Oui, bien sûr. Eh bien, elles ont quand même fait les concerts jusqu'en 2021. Mmh. Et après, effectivement. Pensez-vous que les femmes afghanes emprisonnées par des lois patriarcales ont libéré votre parole ?
En tout cas, elles ont le fait de forcer mon admiration, de voir à quel point elles risquaient en faisant ce qu'elles font, ça m'a évidemment encouragée à oser dire certaines choses, à parler de ce que ma voix pouvait subir comme empêchement, à mon tout petit niveau. Mais je pense que c'était impossible en fait de s'engager dans ce projet sans en fait aussi dire qui je suis, d'où je viens, avec quelles entraves j'écris. C'est évidemment tout petit et il n'est pas question de se plaindre, mais je pense que parler, mettre des mots sur le racisme, sur aussi ce que c'est... quand on écrit, on est forcément empêché par beaucoup de choses. On se questionne, il y a aussi des questionnements simplement éthiques, j'ai envie de dire. Moi j'écris beaucoup sur le réel, donc je me questionne toujours sur est-ce que ça met en pâture des gens, comment être respectueuse tout en parlant de personnes réelles. Ce sont des questions qui peuvent à la fois me porter et en même temps parfois m'empêcher, donc je peux être dans l'autocensure. En tout cas, je peux décider de ne pas écrire certaines choses parce que j'ai pas envie de faire du mal. Donc la question quand même de la responsabilité de l'écriture, elle est au cœur. Et puis puisque on est sur une dénonciation des oppressions, je raconte aussi que dans pourquoi j'écris ce livre, c'est parce qu'à un moment donné, je m'engage dans une association féministe, que cet engagement m'amène, et les lectures que je fais aussi, des rencontres avec des autrices, etc., m'amènent aussi à prendre conscience d'un racisme que je peux subir et qui fait qu'il y a une invisibilisation, il y a des paroles qui sont moins faciles à dire quand on est racisé parce qu'on peut être renvoyé tout de suite au communautarisme. Donc, je pose de façon... J'essaye toujours de garder un équilibre je fais très attention dans ce livre à l'équilibre entre les choses, c'est-à-dire que moi, ça, je le raconte en filigrane. Ouais. Ce qui compte pour moi, c'est que ça vienne résonner, je parle de ce mot, la résonance, mais c'est vraiment d'abord les femmes afghanes dont je veux parler. Après, je viens un peu m'associer, je viens un peu résonner, puisqu'on est sur la musique, ce serait comme un petit écho que moi, je ferais. Parce que finalement, si on parle de là-bas, c'est pour parler d'ici aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ça donne quand même une résonance, puis ça donne une vérité aussi sur ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Donc c'était très touchant de cette partie dans votre livre. C'est-à-dire de dire, oui, moi je suis racisée, donc en effet, quelque part, je vous ai senti enfermée dans ce domaine d'une femme racisée, alors qu'il n'y a absolument aucune raison. La liberté, quelle qu'on soit racisée ou pas, on a parfaitement le droit de parler et d'exprimer ses sentiments. Kaboul, dans les années 60, ressemblait à d'autres villes d'Orient. Vous avez des origines égyptiennes, comme on disait, et votre mère, dans le livre, votre mère vous envoie un message, j'ai trouvé ça absolument charmant, et elle parle de l'autre Orient.
Oui, elle me parle. Alors moi, très très vite, en fait, quand je commence à regarder des images de Kaboul... Quand j'écoute cette langue, quand il y a beaucoup de choses, en fait, au début, je me suis dit qu'il y avait quelque chose sur l'orientalité. Et puis, très vite, je fais attention parce que les femmes afghanes que j'écoute ne se sentent pas orientales, elles se sentent perses. Donc, je change un peu mon fusil d'épaule. Mais il y a quelque chose qui vient comme ça. Quand j'écoute, par exemple, la musique d'Ariana Saïd, il y a plein de beaucoup de morceaux qui me font penser à des morceaux que j'écoutais moi quand j'étais en Égypte. Et puis il y a, je dirais simplement, la question de raisonner avec autre chose que l'Occident. En fait, c'est ça qui vient. Donc je m'autorise aussi dans ce livre à, puisqu'on arrive tous avec nos échos, nos associations d'idées, elles sont pas forcément logiques, mais en tout cas elles sont émotionnelles. Il y a une empathie moi qui se crée à partir de là, qui est Ben, le souvenir, l'histoire d'un pays où je suis beaucoup allée quand j'étais petite fille, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, où je ne peux plus revenir aujourd'hui, voilà, pour des raisons, on va dire, que le régime tel qu'il est aujourd'hui en Égypte est un régime très oppressif, et il se trouve que, voilà, par ma famille, ça serait peut-être compliqué d'y retourner, je ne prends pas le risque, et ce pays me manque énormément. C'est, voilà, et du coup... À cause de cet empêchement à revenir dans ce pays que j'ai aimé, quelque part aussi, par ce tout petit exil, hein, vraiment tout petit, je peux aussi être en empathie avec celles qui sont empêchées de revenir dans leur pays. Et donc je m'autorise à parler de l'Égypte d'une façon un peu poétique aussi. C'est la solution que j'ai trouvée. C'est passé par la poésie quand je parle de l'Égypte. Parce que j'ai pas envie d'en faire tout un plat. J'ai pas envie que ça prenne beaucoup de place, mais... Voilà, il y a une musique, quoi. Il y a une musique, il y a comme ça des résonances. Et donc, je parle de mes souvenirs égyptiens et puis de ma grand-mère qui était femme d'un poète, qui, elle, était une femme très éduquée, très, très, très sensible à la littérature et qui, finalement, elle n'a pas écrit. Et j'ai l'intuition qu'elle aurait voulu écrire, qu'elle aurait aimé écrire. Et quelque part, je lui rends un hommage aussi sur... ce qu'elle n'a pas pu peut-être accoucher et qui crée peut-être une forme de violence chez elle que moi j'ai toujours ressentie. Et donc je questionne aussi, qu'est-ce qui se passe quand les femmes n'ont pas le droit de chanter? Où est-ce qu'on les enferme? Et qu'est-ce que ça peut créer aussi comme dégâts autour, en fait?
Et en fait, cet Orient, c'est l'Orient de votre père.
Oui.
C'est l'Orient de on va parler des chanteuses, hein, Oum Kalsoum et Férouz aussi,
qui sont de
grandes chanteuses. Vous avez rencontré ces femmes arabes pour écrire votre livre?
Alors, je n'ai pas rencontré des femmes arabes, mais j'ai rencontré des femmes afghanes. Oui, j'ai rencontré deux femmes incroyables que j'ai d'abord écoutées dans une émission de radio, qui sont Shakiba Daoud et Sheila Nouri, qui très, très gentiment m'ont accordé du temps. Et puis leur confiance, parce que moi j'arrivais un peu de nulle part en leur disant je veux écrire un livre sur les femmes afghanes. Et elles ont été très, très, comment dire, j'ai trouvé qu'elles ont été très généreuses, parce que ce que je dis souvent, c'est que souvent dans les endroits de militance, on est un peu testé, c'est difficile d'arriver comme ça quand on n'est pas là depuis un moment. Et ce qui est logique aussi, parce qu'on ne sait pas avec quelles intentions les gens arrivent. J'aurais pu écrire n'importe quoi, j'espère vraiment que je ne l'ai pas fait. J'ai tenu aussi à leur... avoir vraiment une relecture de leur part. Je fais très attention à ça. Et c'est vrai qu'elles m'ont parlé de leur parcours, de leur combat. C'était incroyable pour moi de pouvoir les écouter, de pouvoir retranscrire, de pouvoir partager ça. J'essaye dans les rencontres que je mène de m'associer avec elle ou de faire entendre des poétesses. L'idée, c'est pas que moi j'y aille toute seule avec ma petite voix, c'est que ma voix soit la possibilité de donner la voix à d'autres. Donc j'essaye souvent de construire dès que je peux les rencontres, les partages comme ça. Et voilà, donc il faut suivre le combat de Shakiba Daoud, qui a créé le Cercle Persan, une association qui est génial, qui crée plein d'événements autour de plein d'événements festifs de la culture afghane et iranienne. Et puis chez la Nouri, afghane de France, qui elle a monté une association humanitaire qui distribue des repas à Kaboul. Elle fait un travail extraordinaire. Vraiment, si vous avez l'occasion de découvrir leurs associations, leurs combats, de les suivre sur les réseaux, c'est extraordinaire.
J'ai vu ça. Mmh. Vous allez nous faire entendre votre chapitre 16 de votre livre.
Absolument. Donc, c'est un chapitre où je raconte que je pars en résidence d'écriture et que dans ce temps-là, je lis beaucoup de poétesses grâce à un très beau livre dont j'ai parlé déjà, qui s'appelle « Le cri des femmes afghanes », qui est une anthologie traduite et établie par Leïli Anvar. Et donc, je décide de lire à voix haute dans ma chambre. Alors je lis, à voix haute, mais à voix chuchotée aussi. Je lis, secret, étouffement, empêchement. Et je lis pour ce cri, pour ce que signifie le mot « Afghanistan ». Je l'apprends. « Je suis afghane », dit Nadia Anjouman. Il est donc légitime que je parle en cri. Je lis, cri ou chuchotement, l'un ou l'autre, mais jamais voix parlée, jamais autorisée. Je suis leur bouche. Leur moi, par un souffle court ou amplifié, court, pressé, déployé, je chante le chant des poétesses. Être elle, un peu dans une chambre, vivre l'instant où ça s'écrit, où ça s'invente, où ça s'ose, où ça devient bijou. Le travail d'une langue, l'intuition d'une pensée, et la puissance ou la douceur, et la si triste, triste libération des pleurs. Je pleure quand je lis ce qu'écrit Leïli Anvar en français, elle qui a pris sur elle le temps de polir ses phrases, ses vers, ses aveux, toutes ses déclarations, et la condition de leur écriture, la vie, en fait, de celle dont elle est l'interprète, porteuse et sœur supplémentaire. Je pleure quand elle dit ce cri en plein cœur qu'elle a reçu de l'ancestrale douleur et d'un incommensurable désir. Lorsqu'elle dit « identification inexplicable », lorsqu'elle dit « il ne s'agissait plus seulement d'être dans l'écoute ». Je pleure parce que ça fait un moment que je les écoute justement, que je fais le travail avec application presque scolaire, je sais, je veux m'appliquer à partager ces découvertes que tout le monde peut faire, mais voilà. Sur le petit chemin d'écoute et d'intérêt et de sensibilité, c'est la traductrice qui me fait pleurer. Parce que comment dire ? Lire à voix haute, lire comme on lit quand on veut partager, je crois que quand on veut porter, c'est comme ça qu'on dit, une voix, des voix, on éprouve ça aussi. Je ne pouvais pas rester extérieur, il me fallait parler de l'intérieur comme si je nous remettais au monde. Accouchement de Leïli Anvar qui me fait pleurer. Je lis ces mots et les leurs, je lis le miracle d'une traduction, je lis les mots de Seda Soltani et Zahra Moussavi. Me voici, je suis moi, je suis femme, je suis monde, je chante la liberté, je chante la tendresse. Et toi, je t'en conjure, toi aussi, mon héros, ô toi, ma barricade, soulève-toi, toi qui habites ce monde, le même que le mien. Et je voudrais être ce héros pour me soulever, habiter le même monde, je ne veux plus être séparée. Je lis la comptine des enfants de Raël Ayar, chanson pour eux, chanson du temps qui est passé, sans que leur sommeil ne puisse se trouver, ce sommeil dont nos enfants sont comblés, l'insouciance qu'on leur doit, mais le leur, impossible. Nous sommes là de la guerre, nous sommes les colombes posées le long des routes, nous sommes là de la guerre en attendant la paix, nous sommes là de la guerre, nos ailes refermées, nous sommes là de la guerre, nous sommes là de la guerre. Je lis le hurlement du silence. Je lis ce qui se garde en soi mais traverse quand même sans pouvoir s'exprimer. Je lis muette, je lis éprouvée, je lis « pour rester, il faut respirer un air empoisonné, un air ensanglanté ». Et je lis « un humain meurt, le hurlement du silence atteint les sommets ». Je lis « ce qui ne peut plus être chiffre, bilan comptable, mais chaque vie, chaque espoir, chaque pensée et chaque mot déposé ». Je lis « Il y a eu erreur, il n'était absolument pas prévu que la poésie te connaisse ainsi ». Je lis ces poèmes « Pour tous ceux tus d'emblée ». Je lis pour Raïla et je lis pour Rabea El-Balki, ses veines ouvertes, sa passion célébrée. Je lis « Pour ce qui ne peut pas ne pas vibrer ». Je lis pour une jeune égyptienne qui dit « On ne peut pas vivre sans la musique ».
C'était Ilham Zeytoun qui nous a lu le chapitre numéro 16 de son livre. Vous êtes toujours sur Aligre FM, tant qu'il y aura des femmes. C'est donc votre livre, Madame, les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter, aux éditions Toujours Buchet, Chastel, dans la nouvelle collection La Résonance. C'est magnifique.
Merci.
C'est vraiment magnifique. On parlait de tout à l'heure des femmes qui aussi... On fuit l'Afghanistan et qui ont monté des choses que vous avez rencontrées. Sheila Mohiri, vous m'avez dit.
Sheila Nouri.
Sheila Nouri.
Oui.
Ah, Nouri, oui. Qui raconte l'enlèvement de son père.
Oui, alors elle va raconter son enfance, ce père qu'elle a très peu connu, sa mère qui sauve ses enfants en partant à travers les montagnes. Donc vraiment un parcours de résilience et de force incroyable de cette mère, de cette femme qui l'inspire beaucoup en fait. Et voilà, j'étais très touchée d'écouter son histoire.
Ben oui, j'imagine. Et puis elle raconte aussi le courage de sa mère qui fuit à travers les montagnes avec ses 4 enfants jusqu'au Pakistan. Et elle a perdu 3 membres de sa famille dans cette guerre. Il y a aussi Hélène qui a 18 ans et qui raconte aussi sa vie et le brusque, le tsunami qui s'est passé un jour alors qu'elle préparait ses examens et qu'elle elle veut être médecin parce qu'elle est douée en sciences. Elle préparait son anniversaire et tout d'un coup, il n'y a plus rien.
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir donc avec cette jeune fille qui j'ai simplement demandé quelle était sa vie avant l'arrivée des talibans. Et en fait, ce qu'elle m'a raconté, ce qu'elle a eu vraiment à cœur de me décrire et d'une façon qui m'a presque fait prendre conscience de ce mot « apartheid de genre ». C'est un mot qu'on répète, qu'on écrit, mais finalement... Qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement? Qu'est-ce que ça raconte? Et en fait, grâce à son récit, le récit de cette arrivée des talibans, elle est une jeune femme, elle prépare son anniversaire et puis elle doit aller passer son examen de fin d'année. Et en fait, quand elle arrive devant la porte, on lui dit ben non, en fait, c'est que les garçons aujourd'hui qui vont passer l'examen. Et en fait, cette simple phrase me fait comprendre un monde entier. Et elle, évidemment, elle est au courant du premier régime des talibans, elle sait ce que ça signifie. Donc en fait, elle comprend très très vite quelle va être sa vie, en fait, sa non-vie.
Sa non-vie.
Voilà, elle dit aussi, la vie ne va plus être que pour les hommes désormais. Donc en fait, elle est bouleversée, c'est une jeune fille très intelligente, très courageuse, très volontaire, mais comme toutes les jeunes femmes, en fait, à qui c'est arrivé, qui sont allés à l'école, qui se sont projetés dans l'idée de participer à la reconstruction de leur pays et qui voient, en fait, leur vie s'arrêter net. Et j'étais bouleversée parce que, voilà, cette jeune fille, au moment où je l'écoute, elle a l'âge de ma fille. Je suis à distance d'elle, je ne peux pas la prendre dans mes bras, j'entends ses larmes de l'autre côté du fil. Et ça a été, oui, un moment très, très, très important.
Ça se sent dans le livre, d'ailleurs,
voilà,
la façon
voilà.
dont c'est
écrit. Ce livre, il lui est dédié, il est dédié à Hélène, parce que, moi, je suis une femme, elle pourrait être ma fille.
Oui, vous êtes une mère aussi.
Il y a évidemment un endroit où c'est quelque chose de très
fort. Le lien
fort
est là,
passe.
Le lien est là, oui. Alors, dans l'action, 60 femmes se sont retrouvées devant le marché, devant les marches d'Opéra à Bastille. Vous avez chanté.
Oui, absolument. Le premier chapitre part sur cette idée que me suggère mon ami d'aller chanter pour les femmes afghanes. Et puis très vite, au même moment, j'entends une proposition de Shakiba Daoud qui dit retrouvons-nous sur les marches de l'Opéra Bastille pour chanter pour les femmes afghanes. Et donc je raconte ce moment qui est très fort, qui est un moment de sororité où finalement... moi qui ai un peu peur, avec les violences policières, des manifestations, qui n'aime pas y aller toute seule. Là, j'y vais toute seule, je suis avec des femmes que je connais pas. Et puis, tout est très simple, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir cette feuille de papier. On répète un peu, on chante, dans cette langue que moi, je ne connais pas. Et on rend hommage, en fait, au courage de toutes celles qui, là-bas, prennent le risque. Je raconte aussi qu'au tout début, en fin août 2024, on a, vous avez sûrement vu, sur les réseaux sociaux, toutes ces femmes qui prennent le risque de chanter toutes seules et de publier ces vidéos et qui, prennent le risque...
Sans burqa, sans rien,
elles sont traquées par les talibans qui sont très forts pour espionner sur les réseaux sociaux. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est nous, d'aller simplement se rendre sur une place de Paris et chanter. C'est une toute petite chose, mais ce dont je parle aussi, c'est ça, c'est les petites actions, les petites choses qu'on peut faire, qui sont souvent symboliques, mais qui fait qu'on ne se sent pas complètement isolés les uns des autres. La question de l'engagement, en fait, qui est en filigrane dans tout le texte, à quel endroit je m'engage, qu'est-ce que je peux faire moi? Et finalement, c'est une joie. C'est-à-dire qu'évidemment, on parle de quelque chose de terrible, de tragique, mais en fait, très, très, d'une façon très injuste, à l'endroit où moi je fais un tout petit pas, je ressens énormément en fait de joie, d'espoir à faire ça. Et j'espère que d'une façon un peu étrange, tout ça peut résonner, que finalement, mis bout à bout, toutes ces petites actions, et simplement d'écrire ce livre aussi, peut ouvrir, je ne sais pas, des petites portes ici
oui,
et là.
Ça, oui, mais c'est ce qu'il faut. C'est des petites actions comme ça. Alors, on dit toujours les petites rivières font des...
Absolument, voilà. Ouais.
Juste encore pour rappeler cette situation des femmes afghanes, elles ne sont plus autorisées non plus à suivre des études de médecine. Donc compromet automatiquement l'accès des femmes et des jeunes filles aux soins de santé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sages-femmes, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de femmes médecins, sachant qu'il est interdit aux médecins masculins de recevoir les femmes sans un membre de leur famille du sexe masculin, bien entendu. Donc ça aussi, on se demande comment ces femmes vont se faire soigner s'il n'y a pas des femmes pour les recevoir.
Elles sont en danger complet, en fait. Quand on parle d'apartheid de genre et d'oppression systématisée, c'est ça. C'est-à-dire que leur vie est en danger. Et puis là, moi, je termine en disant que dans les dernières lois, c'est qu'elles n'ont même pas le droit d'avoir des fenêtres, en fait.
Oui, donc, c'est ça.
Non seulement elles ne peuvent pas sortir, mais elles ne peuvent même pas voir l'extérieur.
Regarder à l'extérieur.
Donc voilà, c'est un enfermement complet, en fait. Oui, c'est terrible et rien pour l'instant ne nous donne l'espoir que les choses vont s'arranger. Et il y a une normalisation et on ouvre des consulats dans des pays et il y a des négociations qui sont menées comme si tout était normal.
Hein. Oui, tout est normal, bien sûr. 80% des filles en âge scolaire ne sont pas scolarisées en 2023, donc ça fait 2,5 millions de filles. 25% d'augmentation de taux de mariage d'enfants, parce qu'il y a aussi ce problème-là, de mariage forcé d'enfants. 45% d'augmentation de grossesse précoce. Et plus de 70 décrets et directives limitant le droit des femmes en moins de 3 ans. Donc ça veut dire que ça continue, il n'y a pas d'amélioration, il n'y aura pas de... Et même on n'entend pas parler, parce que c'est vrai qu'il y a tellement, tellement d'horreurs. Aujourd'hui, c'est Gaza. Mais on parle de Gaza, mais on ne parle pas de ces femmes. Il n'y a pas d'infos sur ces femmes.
Très peu. De temps en temps, on voit effectivement des articles qui sont faits. Il y en a eu quelques-uns qui ont égrené ces quelques mois où j'ai écrit. Mais c'est vrai que ce qui est triste, c'est que le silence s'ajoute au silence, en fait.
Oui.
Et que, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, c'est Sheila Nouri qui le dit, c'est en parler. En parler, même maladroitement, même avec des clichés, déjà simplement faire exister cette cause sur le devant de la scène, être là dans cette émission que vous m'invitiez, si on avait pu faire venir Sheila ou Shakiba.
Bien sûr. On le fera.
J'espère,
quand
ça
vous
serait génial.
Votre projet, ouais. On en avait parlé tout à l'heure.
Voilà.
Donc, bien sûr. Ce que je me demandais aussi, c'est le lien qu'il y a entre la situation des femmes en Afghanistan et certaines femmes en France. C'est le rapport au corps de la femme, en fait. Ce rapport au corps de la femme. Nous sommes dans un pays dans lequel le corps d'une épouse est échangé sur le net et la pornographie montre des femmes objets de désirs violents. Donc il y a quand même quelque chose qui est, je dirais, presque mondial, ce rapport à la femme, ce besoin, effectivement, d'enfermer la femme dans les systèmes dont elle est prisonnière, elle ne peut pas, sans son consentement, parce qu'il y a quand même ce problème de consentement dont on parle depuis quelque temps, et on a envie de dire ça suffit maintenant, ça suffit de continuer à regarder avec compassion et les victimes, et tous les jours, on retrouve d'autres victimes, et en fait, on est complètement enfermé. Les femmes afghanes disent une chose. Elles disent, nous, on n'espère pas, c'est pas de quitter le voile. Le voile, on sait que jamais on pourra l'enlever. Il faudrait rééduquer les hommes afghans. Ce qu'on voudrait déjà, c'est simplement pouvoir étudier, être libre.
C'est une revendication. C'est extrêmement bouleversant, en fait, de voir à quel point il y a ce désir d'étudier, d'apprendre. Mais d'ailleurs, en réalité, je pense que si on se penchait sur tous les pays où les femmes sont opprimées, c'est une des premières choses qui est dite,
c'est
désir d'apprendre, en fait.
Oui,
mais parce que effectivement, que c'est la voie d'émancipation. Une femme qui sait lire, qui sait écrire, peut réfléchir à un autre système que celui dans lequel elle est prise. Et en plus, ça crée du lien entre les femmes, ça crée de la sororité. Donc c'est le nerf de la guerre, c'est de pouvoir lire, écrire, faire entendre et partager les voix. Quoi.
Le sous-titre de votre livre, c'est « Elle chante ». Donc, les mères, les sœurs, les grands-mères, elles chantent, elles continuent à chanter.
Et pourtant, elles chantent, voilà, c'est ce que je voulais absolument qu'on, qu'on retienne de ce livre. Ce n'est pas un livre de déploration, ce n'est pas un livre où on s'apitoie, c'est un livre où on célèbre la puissance des femmes. Voilà, j'espère que c'est ça qui est ressenti.
C'est ça qui est ressenti.
Et pas un livre triste, mais un livre vraiment de combat. Parfois, il emprunte au manifeste, parfois à l'essai. Mais voilà, j'ai essayé, même dans l'écriture, de mettre une énergie, d'être dans le rythme et dans la musique et dans la puissance de la musique.
De toute façon, vous êtes une artiste, donc... Mais vous m'avez parlé d'un projet, alors dites-nous un petit peu ce que ce projet a toujours avec ce livre.
Oui, alors moi, mon désir, là, ce serait de continuer à faire vivre ce texte, hein, pas seulement donc, comme livre, mais aussi peut-être de le porter jusqu'à la scène, puisque c'est mon métier d'être comédienne. Et donc l'idée, c'est que j'aimerais bien, puisque je disais que j'ai beaucoup écouté de la musique, mais j'ai aussi beaucoup écouté toutes ces paroles, ce serait de, pourquoi pas, aller jusqu'à la danse, c'est-à-dire une lecture qui serait aussi dansée. Donc, je travaille aujourd'hui avec un chorégraphe qui s'appelle Quentin Baguet. Et puis, l'idée, c'est de voir comment on peut trouver une forme qui est entre la lecture, la danse, le happening. Voilà.
Eh bien, vous viendrez nous expliquer tout ça.
Avec grand plaisir.
Et peut-être avec une de vos amis, parce que ce sont vos amis
oui,
maintenant.
Oui, absolument.
Emma Zaitoun, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Merci au technicien Armand Gury qui nous a accompagnés et qui rentrait du Japon, tout heureux. Merci aux auditeurs pour leur écoute. Si vous désirez réagir à l'émission ou proposer un sujet, vous avez la parole dans l'émission, tant qu'il y aura des femmes, l'email desfemmes@aligrefm.org. Et nous allons écouter encore un peu de musique que vous avez choisie.
Absolument, donc c'est Ariana Saïd. C'était une très belle chanson sur laquelle on se dit au revoir. Alors.
On se dit au revoir, alors. À très bientôt.
Merci.
Merci infiniment.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.